Mort spirituelle entraîne la mort physique et le rejet. Et alors que nous étions coupables, alors que nous ne méritions pas d'être aimés, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et on continue. Pour vous qui étiez morts par vos fautes et par vos péchés, parce que dans le péché et dans nos fautes, nous sommes morts. Il n'y a pas de vie là-dedans. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et le diable, il est à l'œuvre pour mettre de la rébellion dans les cœurs, la rébellion dans le monde. Regardez toute la révolte qu'il y a dans le monde. Ça, c'est le prince de l'air. Alors, il y en a qui disent, prouvez l'existence du diable, prouvez l'existence du mal. Je connais une jeune enfant, c'est notre fille pour ne pas la nommer, qui dit, mais il y a tellement de misère dans ce monde, c'est tellement méchant, mais c'est la démonstration de l'existence du diable. Si un enfant peut le dire, pourquoi est-ce que nous, adultes, on voudrait rejeter cela, cette évidence-là? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, je reviens là-dessus. Nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Regarde, il y a un mais pour toi aujourd'hui, alléluia. Il y a un grand mais, verset 4, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés, alléluia. Si tu rencontres Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu es marqué par le salut et la délivrance de l'Éternel. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit et j'aime proclamer cette parole devant l'Assemblée. Alléluia. Regarde verset 6. La rencontre avec Jésus te donne d'être ressuscité. Il nous a ressuscité. J'aime bien cet ensemble. L'assemblée, tu n'es pas seul à croire dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'Église doit rester debout en proclamant ces choses. Parce que combien ça me fait du bien de savoir que j'ai aussi un frère, une sœur à mes côtés qui croit à cela. Amen. Je suis pas le seul fou dans ce monde. Ça, c'est la force de l'Église. C'est la grâce de la communion fraternelle. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres, pas pour nous décourager. Et pourtant, le découragement dans l'Église peut aussi arriver. Malheureusement, quand on perd le cap principal, celui de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es déjà assis avec tes frères et sœurs. Alors mieux vaut bien s'entendre, hein, parce que dans le ciel, ça va durer. Et tant qu'on peut vivre le pardon les uns aux autres, on va le vivre ici-bas. Parce que moi, je dois aussi travailler, hein, j'aime vous dire. Il y a eu des choses blessantes dans l'Église. Je me dis, mais ouais, l'éternité, il y a du boulot. On peut se blesser dans l'Église. On peut se faire du mal. T'as déjà réfléchi à ça? Ça vaut la peine de faire une pause là. Parce que ça va être long. Alors c'est bien de vivre et c'est nécessaire de vivre la réconciliation. Imagine que tu habites la maison à côté de celui qui t'a fait du mal, peut-être, dans l'église. Heureusement qu'il l'est aussi sauvé. Et qu'en tant que sauvé, nous pourrons nous apprécier dans l'éternité. Et ça commence par nous apprécier, nous pardonner les uns les autres. Ici-bas, parce que l'éternité, comme on l'a déjà dit, c'est long, c'est très long. Et regarde, cette résurrection, ensemble, pour régner avec le Seigneur, parce que le repos, c'est cela, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pas par nous-mêmes, en Jésus-Christ. C'est la position que Jésus te donne en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, pour être assis avec lui, dans cette autorité qu'il t'a donnée, qu'il nous a donnée. Et regarde ce qui est extraordinaire, verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir et dans les temps encore à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Ça vaudrait la peine de passer quelques heures sur ce verset, tellement c'est fort. Donc cette résurrection, le fait d'être ensemble, de nous aimer les uns les autres, nous donne de démontrer dans le siècle présent et dans les siècles à venir la richesse surabondante. Déjà, la richesse, c'est pas mal, mais la richesse surabondante, c'est quand même quelque chose de soutenu. Vous êtes d'accord? La richesse qui abonde, qui est absolument extraordinaire de sa grâce, par sa bonté. Et Dieu est très bon. C'est le seul être bon. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui vient lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Qu'un seul est bon. Dieu. Et c'est pour ça que dans notre langage, on dit le bon Dieu. D'une manière un petit peu habituelle. Mais c'est vrai. Il n'y a que Dieu qui est bon. Parce que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Et à part la création des animaux, de la nature et tout, les êtres créés à l'image de Dieu, c'est nous. Et nous savons que notre cœur est mauvais par nature. Donc ça fait de Dieu seul l'être le meilleur, l'extraordinaire, le merveilleux, celui qui est bon. Lorsque tu rencontres ton Père céleste, tu es devant quelqu'un qui est bon, extraordinairement bon. Tu t'adresses à un Père céleste qui est absolument extraordinairement bon. Amen. Ne crains pas l'Éternel dans le fait de croire qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il t'attend juste au contour pour te taper juste la tête, la tac, je t'ai bien eu. Non, ça c'est le diable. Ah, il n'est pas comme ça, mon Père céleste. Mon Père céleste a pourvu en Jésus-Christ. Amen. Mon Père céleste m'a pardonné en Jésus-Christ. Mon Père céleste m'a guéri en Jésus-Christ. Mon Père céleste m'a restauré en Jésus-Christ. Mon Père céleste m'a rétabli en Jésus-Christ. Mon Père céleste m'a donné une destinée éternelle en Jésus-Christ. Amen. Mon Père céleste m'a donné un avenir fait d'espérance et non de malheur. Alléluia. Mon Père céleste m'a donné la grâce d'avoir la vie en abondance. Et je suis réellement en vie parce que j'ai rencontré Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Ça, c'est les tendresses, ça c'est la bonté de l'Éternel qui ne va pas s'anéantir et qui restera bon jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. C'est cette foi que tu dois être animé. Réponds au diable qui voudrait te faire douter de la bonté de Dieu. Lui est le méchant, lui est l'adversaire, lui est là pour te détruire, pour détruire ton couple, pour détruire ta vie, pour détruire tes enfants, pour te détruire. Il a une haine, ça se voit dans le monde. Parce que chaque fois que le diable voit un seul être vivant, il est porteur de l'image de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc c'est normal que le diable veuille détruire cette humanité. Alors, il ne supporte pas ce que Dieu a créé. Parce qu'il est mauvais dès le commencement. Il est menteur dès le commencement. Amen. Dieu est bon dès le commencement. Et tout ce qu'il fait est merveilleux. Alléluia. Quoi qu'il arrive dans mes circonstances, bien que mes circonstances dépendent quand même de moi. Hein? On ne veut pas toujours blâmer le Seigneur pour ce qui nous arrive. Mais il peut arriver dans les circonstances de vie, c'est vrai, où on ne comprend pas. On aime le Seigneur, on craint le Seigneur. Et nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est justement là que la foi doit entrer en action. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Heureusement, c'est un don de Dieu. Alléluia. Le don de la bonté de Dieu, absolument extraordinaire. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oh, parce que Dieu connaît nos cœurs. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Moi, je suis meilleur que celui-ci ou celle-ci. Regarde ce que je fais. Mais regarde, non, c'est pas comme ça que ça marche. Merci, Seigneur. C'est par la foi, par grâce que nous sommes sauvés. Ensuite, bien sûr, les œuvres vont suivre et justifieront l'authenticité, bien entendu, de ta marche avec le Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, alléluia, parce que Dieu est bon, que Dieu a même préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça le repos. C'est d'entrer dans ces choses que Dieu a préparées d'avance. Donc ma prière, Seigneur, c'est je me soumets à ta volonté pour entrer dans seules les œuvres que tu m'as préparées d'avance. Parce que sinon, il y a beaucoup d'œuvres que je peux faire qui ne sont pas selon le programme de Dieu. C'est peut-être pour cela qu'on est fatigué. Il est temps de revenir aux œuvres que Dieu a préparé depuis la fondation du monde. Je suis en train de vivre depuis cette semaine un renouveau aussi dans ma vie de prière. C'est absolument extraordinaire. Tu te places. Je vis quelque chose de plus, on va dire. Et tu as besoin d'un truc. Tout d'un coup, le Seigneur, mais il permet, tu ne sais pas pourquoi, tu as une pensée, tu y vas, tac, tout d'un coup, c'est inexplicable. C'est formidable. Ça aide. Ça, c'est le repos. Parce que tu te connectes par l'esprit à la volonté de Dieu et tu commences à entrer dans ses œuvres et c'est étonnant. Tu vas être étonné de voir où tu vas rencontrer le Seigneur lorsque tu obéis de cette manière. C'est garanti. Tu as un truc qui doit être résolu. Hein. Le Seigneur va le résoudre. Ça, c'est le repos. Ça, c'est le repos. C'est de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Genèse chapitre 2. Il est question de foi et de repos dans le Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 2, plutôt verset 1. Genèse 2, 1, 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Là, il y a un verset qui va te faire du bien. Encore. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Autrement dit, depuis la fin de la création, Dieu est au repos. Ça m'aide. Dieu se repose. Tout est fait, tout est accompli, tout est établi, son plan est fait parfaitement. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu est dans le repos depuis le septième jour. Dieu se repose. J'ai besoin de rencontrer mon Père Céleste, ce Dieu absolument extraordinaire qui se repose. Alors, il ne roupille pas le Seigneur, excusez-moi du terme. Non. Il est dans un repos extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire et c'est en rencontrant le Seigneur vraiment dans cette intimité, dans cette relation à lui, qu'on peut commencer à goûter à son repos. Mais ce repos dépend de quoi ? De la confiance que je lui fais, en toutes circonstances. Et c'est ce que Dieu a voulu enseigner à Israël dès le départ, pour leur dire... Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vais vous faire sortir du pays d'Égypte après ces 400 ans d'esclavage. Si vous croyez en moi, si vous avez la foi en moi, si vous vous confiez en moi, alors vous serez dans mon repos. Même dans le désert, même quand vous aurez soif, même quand vous serez dans le besoin, sachez que vous êtes le peuple du repos. Le peuple de mon repos. Je rappelle le titre de cette prédication, foi et repos en Dieu. Je rajoute seul. Et parce que Dieu est entré dans son repos depuis sa création parfaitement accomplie, l'Éternel désire que son Église entre aussi dans le repos. Et je regardais bien entendu le terme de repos là, c'est Shabbat. Le Shabbat. Alors on m'a dit, mais c'est quoi Jean-Paul le Shabbat ? On m'a déjà posé plusieurs fois la question. Alors bien sûr, c'est bien de se reposer un jour. Parce que si tu ne te reposes pas, tu vas être fatigué. Donc c'est bien de respecter un jour. Ça c'est bien, c'est vrai. Mais il y a plus qu'un jour. Il y a le repos perpétuel de l'âme que Dieu veut te donner. Et ça c'est le vrai Shabbat. Qui peut commencer par un jour la semaine, oui. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut respecter samedi, etc. Non. Alors il y a tout un débat, faut-il respecter le samedi ? Moi je dis que c'est bien de respecter le dimanche parce que nous célébrons la résurrection de Jésus, amen. Et parce que le vrai repos est trouvé dans la résurrection de Jésus qui a tout accompli, qui nous a justifiés et qui nous permet de nous reposer pleinement en Dieu, amen. C'est pour ça qu'on célèbre le Seigneur le dimanche, troisième jour. Je pense que c'est une bonne chose, on va continuer comme ça. D'accord ? Enfin, c'est ma conviction, on ne va pas revenir au samedi, etc. Je ne voudrais pas heurter les sensibilités, je pense que pour éventuellement me retrouver à la sortie si vous voulez un petit peu en discuter. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi parce que regarde, on prend l'épître de l'inconnu aux Hébreux parce que nous ne connaissons pas encore qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il semble que ce n'est pas Paul. Je peux entrer dans une polémique, c'est éventuellement Apollos, il y en a qui disent, mais bon voilà. Mais il n'y a pas d'auteur connu jusqu'à présent de l'Épître aux Hébreux. Voilà ce que c'est que le repos. Au chapitre 3, verset 7. Foi et repos en Dieu seul. Foi et Shabbat en Dieu seul. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, regardez, c'est important. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ce sont les deux événements que nous retrouvons transcrits dans le psaume 95, versets 5 à 7, sauf erreur, qui ramènent à Exode 17 et Nombre 20, lorsque dans le désert, Israël se plaint d'avoir soif. C'est normal d'avoir soif, oui. Et Dieu permet de les pousser dans le désert pour éprouver leur cœur. Et ils se sont révoltés. Et ce manque de confiance en l'Éternel, alors que leur cœur était éprouvé, a donné ce nom de révolte, ou ce nom de provocation de l'Éternel. Parce que j'ai déjà dit, tous les miracles pour la délivrance d'Israël ne suffisent pas. C'est quand même étonnant, hein? Parce qu'on pourrait se dire dans nos vies, Seigneur, fais un miracle comme au temps de l'Égypte, Seigneur, parce que j'ai besoin d'un miracle, alors je croirai, penses-tu. Tous les miracles d'Égypte n'ont pas créé ce cœur confiant en Israël. Et les miracles, je l'ai déjà dit, ne sont pas la garantie de marcher vraiment avec le Seigneur. Et nous arrivons dans des temps où il y aura des miracles, des choses surprenantes, et les gens courront à ces choses. Attention, attention, je ne cible rien aujourd'hui. Attention, nous avons besoin de nous reposer dans les promesses de l'Éternel pour avoir pleinement ce repos, pour ne pas être séduit par ces temps de séduction qui viendront au point qu'il y aura même des signes dans le ciel afin d'en séduire le plus grand nombre. Vous vous rendez compte? Déjà qu'on ne voit pas trop de signes, mais quand on commence à voir des signes, c'est qu'à voir au niveau de cette lune rouge, bon, voilà, c'est un signe tout à fait naturel, mais il y a eu pas mal de, excusez-moi, bastringues par rapport à tout cela, d'accord? Imaginez-vous s'il y a vraiment des signes encore beaucoup plus bizarres ou je ne sais quoi, mais on arrive dans ces temps de séduction, bien-aimés, où nous devons tenir ferme dans les promesses de la parole de Dieu. Donc n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte ou de la provocation, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. 40 ans, vous vous rendez compte, dans le désert. C'est pourquoi je fus indigné contre génération et je leur dis, leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère et contre Dieu jure dans sa colère, c'est grave. J'ai juré dans ma colère, oui Dieu peut se mettre en colère. Au bout d'un moment quand même, après tous ces miracles, cette démonstration de l'amour de Dieu, le fait que tous les dieux d'Égypte ont été jugés par ces 10 plaies, le fait que Dieu a montré la gloire de l'Éternel lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, alors que l'armée de Pharaon qui était en train de les rattraper a été engloutie dans cette eau. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour croire? Tous les miracles ne sont pas forcément la garantie d'une marche fidèle avec le Seigneur. C'est une question de cœur. Une question relationnelle au Seigneur. Amen. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, rajoutent les sœurs quand même, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que douter de la bonté de Dieu, douter de ce que Dieu pourra pourvoir, même dans le désert, c'est se détourner de lui. Et dans l'assemblée, c'est ce que nous faisons. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a un aujourd'hui encore pour toi. Amen. Aujourd'hui n'est pas trop tard. Amen. Aujourd'hui, tu peux changer l'attitude que tu as envers le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux éjecter tous les doutes de ta vie. Et nous sommes là pour t'exhorter aussi. Ensemble, exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas trop tard pour la repentance. Aujourd'hui n'est pas trop tard pour avoir un cœur changé en l'Éternel. Alléluia. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, parce que c'est le doute qui nous entraîne dans la séduction du péché, et c'est le doute qui nous entraîne dans l'endurcissement du cœur. Pourquoi? Car nous avons été rendus participants du Christ, vous vous rendez compte? Mais on a parlé de la croix aujourd'hui, au tout début de ce message. Nous sommes aussi participants du Christ, dans la mesure où nous crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs, et tout ce qui nous éloigne du Fils de Dieu. Si je me réclame d'être un chrétien, c'est ça l'Église. Car nous avons été rendus participants du Christ. J'aime bien ce passé, il faudrait que je vérifie, je pensais au passé. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans laquelle tu es entré en Christ, amen. Tu es participant de la nature de Christ, de celui qui te régénère, de celui qui te restaure, de celui qui te pardonne, de celui qui te rétablit, de celui qui est ton juge, de celui qui te justifie, de celui qui t'aime, de celui, si tu doutes de l'amour de Dieu, mais regarde la croix, de celui qui ne va jamais te trahir. Parce que lui sait ce que c'est que la trahison. Jésus n'est jamais un traître. Il ne sera jamais. Parce qu'il a été trahi. Il sait ce que c'est que la trahison. Surtout des proches. Parce que la trahison implique des proches. Alors il y a une condition. Nous avons été rendus participants du Christ. Si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, on parle de ces eaux de Meriba, on parle de ces eaux de Massa, trouvées donc dans Exode 17 et Nombre 20. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu, il y a eu provocation de Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, on en parlait tout à l'heure, sous la conduite de Moïse, délivrance de 400, plus de 400 ans, 430 ans sous erreur d'esclavage en Égypte, et contre qui fut-il indigné 40 ans, parce que Dieu peut être indigné, nous pouvons indigner le Seigneur, hein, durant 40 ans, 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Malgré les miracles, ils n'ont pas eu confiance en l'Éternel. Et le manque de confiance en l'Éternel me fait mourir dans un désert. Ça me plonge dans un désert. Est-ce que je suis dans un désert dans ma vie dû justement à un manque de confiance que je fais en l'Éternel? Tu peux passer peut-être des déserts. Et ces déserts sont dus au manque de confiance que tu as en l'Éternel, qui peut tout. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Il crée tout. Tout a été créé par sa parole. Tout ce que tu vis peut être en un instant changé, peut-être qu'il y a un temps de persévérance, bien sûr, mais Dieu est capable et va honorer ta foi, alléluia. Cette foi qui peut-être te fait passer par un désert, mais si tu continues de douter dans les promesses de l'Éternel qui sont oui et amen en Christ, alléluia, eh bien tu vas rester dans le désert. Le doute te fait retourner dans le désert. Le doute te fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Ça fait peut-être 40 ans que ça tourne en rond dans ta vie. Est-ce que tu fais vraiment confiance en l'Éternel? Je ne me moque pas en disant ça. C'est un appel, bien-aimé, à sortir du doute. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? C'est là que ça devient intéressant. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Mais désobéi comment? Tout simplement en lui faisant pas confiance. Tout simplement en refusant de faire confiance à l'Éternel qui était capable de pleinement pourvoir même dans le désert. C'est cette foi que le Seigneur voudrait que l'Église soit toujours animée envers et contre tout, garder la foi. Garder une ferme assurance dans les promesses de l'Éternel qui sont oui, amen, alléluia. Si l'Église n'a pas cette foi, mais ce n'est pas étonnant qu'on arrive dans des temps de la fin où la foi va être éprouvée, où on va commencer à entraîner des choses un peu bizarres, où on va douter de la fidélité de Dieu. L'Église est l'épouse de l'Éternel qui doit réaffirmer sa foi en son Fils crucifié. Amen. Nous devons avoir la foi en tant qu'Église. Si l'Église n'a plus de foi, mais on va la trouver où? Pas du tout dans le monde. C'est un appel à renouveler notre foi, notre confiance dans l'Éternel. Amen. Confiance, quoi qu'il arrive. Je répète, verset 18-19, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Donc l'ennemi du fait d'entrer dans le repos, c'est l'incrédulité. C'est le manque de foi, c'est ne pas croire que Dieu peut tout dans ta vie. Amen. Il peut tout, il est le créateur des cieux et de la terre, alléluia. Il peut tout, il n'y a aucune limite en l'Éternel. Et c'est dans la mesure où tu lui fais confiance en toutes circonstances que tu entres dans son repos et que tu demeures dans son repos, alléluia. Foi et repos en Dieu seul. La foi ne peut pas être dissociée du repos que j'ai dans le Seigneur. Et le repos, c'est justement la confiance que je lui fais dans toutes mes circonstances, dans tous les projets que Dieu me met à cœur d'accomplir pour lui. C'est animé de la foi et cette foi me fait entrer dans son repos. Amen. Si tu n'as pas confiance en l'Éternel, tu es incrédule et tu n'es pas dans son repos. Si tu as pleinement confiance en l'Éternel, dans ses promesses, dans ce qui t'arrive dans ta vie, parce que tu sais que l'Éternel va intervenir, c'est là que tu es dans son repos. Même si c'est une galère. Israël était quand même dans une petite galère au désert. Imaginez-vous les petits bouts de chou de 2 ans. « Maman, j'ai soif !» C'est vraiment la vie réelle. Mais c'est dans cette vie réelle, dans mes baskets, que le Seigneur aime me rencontrer. Dans mes chemins de poussière, lui qui a vêtu aussi, qui a revêtu notre humanité. Non, attention, un sang qui devient péché, il a été fait péché, mais il n'est pas péché, hein, Jésus. Mais il a habité dans un corps comme le nôtre, c'est ce que c'est que d'avoir de la poussière sur les pieds, etc. Et tout. Mais lui a toujours fait confiance en son Père. Et si nous nous réclamons de disciples de Christ, nous voulons toujours marcher à l'exemple de Christ et lui faire confiance, parce que lui nous a ouvert la voie, amen. Verset 1 du chapitre 4, « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne paraisse être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire à nous maintenant, qu'à Israël à l'époque. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Si ces choses n'ont pas un impact dans ton cœur, si elles ne sont pas habitées de cette foi naissante dans ta vie, eh bien là, le Seigneur ne peut pas agir comme il voudrait agir. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Si tu reçois la parole de Dieu avec foi, que tu la mets en pratique, alors cela fait de toi un enfant, une enfant de Dieu qui croit pleinement et qui entre pleinement dans le repos de l'Éternel pour justement pleinement vivre cette dépendance totale au Seigneur. Foi et repos en Dieu seul, le fait de me confier en l'Éternel, quelles que soient les circonstances de ma vie, me donne d'entrer dans son véritable repos. Amen.